Là, j'aimerais vous parler de la libération. Merveilleux message, merveilleux mot, être libéré. Et mon verset de départ se trouve dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 20. 1 Corinthiens 6, 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ce mot racheté à cette époque-là était un mot lourd de sens parce qu'il y avait des esclaves, des milliers d'esclaves, des centaines de milliers d'esclaves dans tout l'Empire. Et le mot racheté, c'était pour eux. Les esclaves étaient vendus au marché. Dans le mot racheté, là, il y a le mot marché. On allait au marché des esclaves et on disait, je veux lui, elle, lui, lui. Et on payait une petite somme. Et puis après, on pouvait les revendre. On était revendu à un autre maître, on ne savait pas sur qui on allait tomber. Parfois, on était tué au travail. Les esclaves n'avaient aucun droit. Ils n'avaient pas le droit d'avoir des enfants à eux. Ils n'avaient pas le droit d'avoir une propriété. Et on avait droit de vie ou de mort sur eux. Certains esclaves étaient bien traités. Même certains esclaves romains sont devenus les tuteurs des enfants ou sont devenus les héritiers même. Et c'est une image aussi hein, dans la Bible. Les esclaves ont pu avoir un statut d'héritier, contrairement au fils, lui, qui était indigne. Mais là, vous avez été rachetés, c'est pour nous. Nous étions esclaves du péché. Nous avons été rachetés à un grand prix. Quel prix ? La mort du Seigneur Jésus-Christ sur la croix. C'est ça ce prix qui a été payé pour que nous soyons rachetés, qu'ils viennent dans le marché aux esclaves et qu'ils disent « Je paye leur prix et ils sont libres. » Pierre écrit aussi « Ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais c'est par le sang précieux de Christ. » Nous allons avoir le repas du Seigneur tout à l'heure. Nous voulons nous rappeler que c'est par le sang précieux de Christ que nous avons été libérés, rachetés. Le Seigneur nous a rachetés du péché, nous a délivrés des chaînes du péché. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile, la libération. Jean le Baptiste, il a dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Je vous laisse un peu réciter les versets pour vous faire participer et voir si votre mémoire a quelque chose à l'intérieur. C'est très important de connaître ces paroles de Dieu qui sont notre soutien, la base de notre vie éternelle. Mais souvent, ce message de la libération du péché est négligé de nos jours. Beaucoup prêchent la guérison physique. Beaucoup prêchent la prospérité matérielle. Viens à Dieu, il te donnera tout ce que tu veux, tout ce qu'il faut, tu auras une vie merveilleuse. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est venu nous libérer du péché. C'est la libération du péché. Quand on dit la libération, ouais, du péché, oh. Libération, oui, du péché, oh. Parce que le péché, on y tient quand même, hein. On aime bien le péché. Et pourtant, Jésus-Christ est venu nous en libérer. C'est pour ça que lorsque Jean a prêché, lorsque Jésus a prêché, ils ont dit « Repentez-vous et croyez ». Il y avait la repentance. Est-ce que ça veut dire qu'il faut faire deux choses pour être sauvé ? Non, parce que pour croire en Jésus-Christ, il faut se repentir. Pour se tourner vers Christ, il faut se détourner du péché. Et si vous pensez qu'on peut rester dans le péché et se tourner vers Christ, vous êtes dans une grave erreur, dangereuse erreur. C'est le pasteur Tozer aux États-Unis qui a écrit beaucoup de choses très très pertinentes. Il a dit, si l'on parle du salut sans la repentance, on fait baisser le niveau moral des églises. On produit une multitude de personnes religieuses qui se trompent elles-mêmes, en croyant à tort qu'elles sont sauvées, alors qu'elles sont toujours dans un fiel amer et les liens du péché. Ça, c'est une citation d'Actes chapitre 8. C'est-à-dire, on peut venir à Jésus sans être sauvé. Vous dites, comment c'est possible? C'est qu'en fait, on ne vient pas vraiment à Jésus-Christ. On vient à une idée qu'on a de Jésus-Christ, mais pas au vrai Seigneur Jésus-Christ de la Bible. Parce que quand on vient au vrai Seigneur Jésus-Christ, on vient pour y laisser nos péchés une fois pour toutes, pour qu'il s'en charge, pour qu'il les efface, qu'il nous purifie et qu'on ait une nouvelle vie sainte. Bien sûr, après la conversion, on peut tomber dans le péché. Mais si on continue dans le péché en disant « mais moi, de toute façon, je suis un chrétien moyen, je suis un chrétien, vous savez, le péché c'est fort, il y a des tentations terribles dans ma vie, je suis obligé de pécher des fois », alors la mort de Christ, sa résurrection sont vaines, n'ont pas la puissance de me délivrer du péché, n'ont pas la puissance de me faire résister aux tentations. Et en fait, nous avons une mauvaise compréhension du péché parfois. Ça vient beaucoup de l'enseignement religieux de la France, où le péché, c'est une liste de choses à faire et à ne pas faire. Donc, si tu n'es pas dans la liste, ça va. Ou alors, tu peux même tourner un article de la liste. Il est dit qu'il ne faut pas voler. Oui, mais moi, je ne vole pas pour voler. Je vole parce que je suis pauvre, ou je vole parce que l'État me vole, ou je vole... On trouve des excuses et on essaie de tourner les articles de la loi. Mais péché, ce n'est pas une liste de choses à faire et ne pas faire. Parce que les hommes sont tellement inventifs. Vous pouvez, s'il y avait une liste, je ne sais pas, dans la Bible, de 36 727 péchés, eh bien, on ferait le 36 728e pour continuer à pécher. Et Dieu savait que ce n'était pas une liste. Qu'est-ce que c'est le péché dans la Bible? Le péché, c'est manquer la volonté de Dieu. Le péché, c'est une rébellion contre Dieu, notre Créateur. C'est ça le vrai péché. Et tout ce qui en découle, tous nos actes, nos pensées après découlent de ça. Mais si je ne suis pas dans l'amour pour Dieu, je suis dans le péché. C'est pour ça que Dieu a laissé seulement 10 commandements. Pour dire, ce n'est pas beaucoup 10 commandements. Comparez le code civil, le code pénal aux 10 commandements. Comparez même le droit canonique de l'Église romaine. Les prêtres, pourquoi ils font 7 ans d'études au moins au séminaire? Parce qu'ils ont besoin de ces 7 ans pour apprendre tout le droit canonique, qui est le droit de l'Église romaine catholique. Malheureusement, ils passent trop peu de temps dans la Bible. Trop peu. Mais la Bible, elle est extraordinairement simple et courte et brève. On peut dire, oh, c'est gros la Bible, mais en fait, c'est pas très gros pour être le livre de vie. C'est pas en 12 volumes. Vous n'avez pas besoin d'une valise ou d'un camion pour transporter la Bible. Il y a même des Bibles de poche, toutes petites. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une liste de péchés que Dieu nous apporte là. Il nous apporte un principe de vie. Les 10 commandements se séparent en deux. Il y a les 4 premiers, c'est « tu aimeras ton Dieu ». Les 6 derniers, « tu aimeras ton prochain ». Et c'est ça les 2 commandements qui résument toute la loi et qui résument le péché. Si je n'aime pas Dieu, je suis dans le péché. Si je n'aime pas mon prochain, je suis dans le péché. Je n'ai pas besoin de liste. Des fois, les chrétiens ont des questions en disant « est-ce que j'ai le droit de faire ça ?» Et c'est vrai que des fois, c'est légitime. On peut se demander « ah oui, là, est-ce que je peux manger du porc en tant que chrétien ? Est-ce que je peux faire ci ? Est-ce que je peux faire ça ?» Maintenant, cherche le Seigneur. Qu'est-ce que le Saint-Esprit te montre dans la parole de Dieu ? Est-ce que ça, c'est aimer Dieu et ton prochain ou pas ? Parce que celui qui aime Dieu et son prochain, il ne commettra pas de péché. C'est ce que le Seigneur a dit. En France, on a du mal à se considérer comme des pécheurs. Même les athées, hein, surtout peut-être les athées. Les athées qui sont humanistes pensent qu'ils font du bien par leur humanisme et qui sont très bien. Ils n'ont pas besoin de Jésus-Christ, ils n'ont pas besoin de Dieu dans leur vie. On est des propres justes. Et on a ce côté-là en France. Il n'y a pas qu'en France, mais on est assez fort dans ce domaine pour être des propres justes. On a un certain orgueil de nous-mêmes, une pensée élevée de ce qu'est le français. Surtout, ça se voit quand on va dans les autres pays. Le français, quand il visite les autres pays, il dit « Ah, nous en France !» Pas comme ça, hein. Nous les Français, hein. Et là, on voit l'orgueil, le chauvinisme mal placé et le manque d'humilité. Nous sommes des propres justes. Jésus a dit « Je ne suis pas venu sauver les propres justes. Je suis venu sauver les repentants, les malades spirituellement. Hein. Ceux qui se reconnaissent malades, qui avouent qu'ils ont une maladie qui est le péché. Le péché, nous pensons pouvoir le maîtriser. On dit « Oui, je ne suis pas parfait. J'ai des petits péchés par-ci, par-là, mais je maîtrise. » Et la Bible dit qu'on ne maîtrise pas le péché. C'est Jésus qui a dit « en vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Avec le péché, on ne peut pas jouer, on ne peut pas négocier. Du moment que vous le prenez avec vous, vous devenez son esclave. Bien sûr, Satan, le prince de ce monde, est le premier pécheur, hein, puisque c'est lui le premier qui s'est rebellé contre Dieu, a une façon de nous faire voir le péché autrement. Il dit, et notamment ce qu'il a fait avec Adam et Ève, « T'inquiète pas, il n'y aura pas de conséquences. Au contraire, tu vas te faire plaisir. Oh, bah, prends-toi un peu de plaisir, là. Pas toujours, gna gna gna, là, Dieu, Dieu. Amuse-toi un petit peu. Et puis regarde ce péché. Est-ce que tu vois du mal dans ce péché ?» Alors vous regardez, non, non. Même ça a l'air beau, ça a l'air bien. Ben, tu vois. Et oui, mais Dieu a dit que je ne pouvais pas faire ça. Oui, mais Dieu, est-ce que tu es sûr qu'il a dit d'abord ? Est-ce qu'il a vraiment dit ça, mot pour mot ? Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de détourner l'article de loi, là, hein, de trouver une faille juridique ? Vous savez, ceux qui essaient de faire sauter leur PV avec les failles juridiques, il y a des avocats spécialisés là-dedans, ils trouvent toujours une faille dans toutes les lois. C'est pour ça que Dieu n'a pas fait simplement des sommes de listes. Alors Satan vous dit, vas-y, fais-toi plaisir, et après, aucune conséquence, t'inquiète pas. Et puis après, vous êtes pris, vous êtes esclave. Les conséquences du péché sont terribles. Il ne faut pas voir le péché comme un péché mignon, il faut le voir comme un poison qui nous détruit. C'est Paul qui écrivait, « Je ne sais pas ce que je ne fais pas ce que je veux, et je fais ce que je hais. » Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais que la loi de Dieu est bonne, mais ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Quand il écrit ça en Romains, chapitre 7, il est en train de dire, moi, je veux le bien, je sais ce qui est le bien, j'ai la loi de Dieu là, je sais ce que Dieu veut, mais il y a le péché en moi qui me pousse au mal, qui m'éloigne de cette loi. Et il y a une force, le péché n'est pas quelque chose qu'on choisit, c'est une force profonde dans l'être humain. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'être libéré. Le péché, ce n'est pas quelque chose que vous mettez dans un sac et vous le sortez quand vous voulez. Le péché, c'est une chaîne qui vous est attachée, que vous portez, que vous traînez partout. Les conséquences du péché, on ne les réalise pas suffisamment, et j'aimerais dire quelques mots là-dessus. Le péché, un seul péché, nous sépare de Dieu. Un seul. Et nous sépare de Dieu, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que quand vous priez, il y a un mur. Vous êtes séparés. La prière n'arrive pas tant que vous ne vous repentez pas. Il n'y a qu'une seule prière qui peut arriver. C'est « Seigneur, pardonne-moi. Je reconnais mon péché. » Mais toutes les autres, séparées de Dieu. Le péché nous souille. Et pas simplement le corps. La Bible parle des péchés contre le corps, notamment la débauche, l'immoralité. Mais il y a des péchés dans l'âme qui souillent l'âme. Le mensonge. L'orgueil, l'égoïsme, l'amertume, etc. Ça souille votre intérieur. Et autant l'extérieur, on peut prendre une douche, un bain, essayer de se laver, autant l'intérieur, on ne sait pas comment se laver. Et la Bible dit qu'il n'y a que le sang précieux de Christ qui peut laver notre âme, nous donner une âme pure, blanche comme la neige. Le péché nous condamne éternellement. C'est-à-dire, si je vis dans le péché, si je reste dans le péché, si je ne me repens jamais de mes péchés, lorsque je meurs, je suis perdu pour l'éternité. Je suis séparé de Dieu pour l'éternité. Les hommes appellent ça l'enfer. Ça vient des régions inférieures de la terre, hein, enfer inférieur. La Bible appelle aussi ce lieu l'étang ardent de feu, le lieu de tourment. Jésus appelle ça la géhenne. Là où le ver ne meurt pas et le feu ne s'éteint pas. Pourquoi ? Parce qu'à Jérusalem, la géhenne, c'était ce dépôt d'ordures qui était dans la vallée de Hinnom, juste en bas de Jérusalem, où tous les Hiérosolomitains, comme on dit, déposaient leurs ordures, leurs excréments. Tout était arrivé là, dans ce fleuve horrible, nauséabond. Et il y avait un feu, parce que pour que les ordures puissent quand même disparaître, on les brûlait en permanence. Et Jésus dit, vous allez aller dans la géhenne. Et quand on voyait la géhenne, ce que c'était, on n'avait pas envie d'aller là. Et c'était bien sûr une image de la perdition éternelle. Lorsqu'on est séparé pour l'éternité de Dieu, Dieu a tout fait pour que personne n'aille là-bas. Il a donné sa propre vie, son Fils sur la croix. Mais il y a des gens qui vont y aller quand même parce qu'ils refusent le salut. Parce qu'ils préfèrent le péché. On se dit toujours, pourquoi quelqu'un peut refuser le paradis ou le salut ? Moi, j'ai du mal à comprendre. Mais Jésus a répondu, il a dit, parce qu'ils ont préféré les ténèbres à la lumière. Il y a des gens qui préfèrent les ténèbres. Ils préfèrent le péché, le vice. Ils n'aiment pas la pureté. Et c'est vrai que naturellement, l'homme n'aime pas la pureté. Comme je vous l'ai dit, la libération, oui, du péché, oh, c'est que le péché, on y tient, on a du mal à l'abandonner. Pourtant, le péché, c'est une autre conséquence, nous détruit de l'intérieur. Il détruit, non seulement il souille notre âme, mais il la détruit. Elle n'est plus comme elle devrait être. Elle perd sa beauté, elle perd tout ce qu'elle a de beau. L'âme d'un pécheur est détruite, est malade. Vous avez déjà vu un foie malade ou un poumon malade ? Il y a des photos pour les fumeurs et les buveurs. C'est boursouflé, ça n'a plus de forme. L'âme du pécheur n'a plus de forme. Elle est boursouflée du mal, de vice. On ne reconnaît plus la personne. Et quand Christ vient dans un cœur comme ça, dans une âme comme ça, il rétablit tout. L'âme reprend sa forme. Notre personnalité reprend toute sa beauté. Parce que le péché détruit jusqu'à notre personnalité. Il y a des gens qui sont horribles, imbuvables. Pourquoi ? Parce qu'ils sont dans la rébellion, l'orgueil. Le jour où ils se tournent vers Christ, il y a l'amour de Dieu qui vient dans leur cœur. C'est possible. Ce n'est pas, il n'y a pas que les gentilles personnes qui viennent à Christ. Heureusement, il y a beaucoup d'horribles pécheurs. Et c'est merveilleux. D'ailleurs, les gentilles personnes, parfois, ont l'air gentilles, mais à l'intérieur, comme dit Jésus, c'est un tombeau tout blanc, tout joli à l'extérieur, mais dedans, il y a des ossements décrépits. Surtout, le péché détruit aussi ceux qui nous entourent. Il ne touche pas que nous-mêmes. Quand je pêche, ça a des conséquences autour de moi. Pourquoi notre monde est dans un tel chaos ? Mais c'est des péchés. L'amour de l'argent, principalement. L'égoïsme absolu, l'individualisme absolu. Pourquoi c'est tellement dur de vivre à Paris ? C'est de plus en plus dur de vivre à Paris. Parce que les gens sont impossibles. C'est chacun pour soi. Et il ne faut pas que les chrétiens se comportent pareil en disant « tout le monde fait comme ça ». Non, on doit montrer la différence, les amis. Courtoisie, un mot qui disparaît aussi. Politesse, après vous. Je vous en prie, je n'en ferai rien. Mais pas juste la politesse guindée qu'on a appris à la maison, mais une vraie courtoisie, le fait de respecter l'autre, de le mettre avant soi. Pourtant, c'est dans la Bible, ça, mais est-ce qu'on le pratique ? Alors, il y a certains chrétiens, peut-être, qui préfèrent l'esclavage à la liberté. Dites, comment c'est possible ? Mais l'esclavage, c'est une forme de confort. Vous n'avez aucune responsabilité. Dans l'esclavage, c'est votre maître qui décide tout. Et il y a des gens qui préfèrent l'esclavage du péché parce qu'ils n'aiment pas la liberté. La liberté implique la responsabilité, implique la pureté, implique des efforts aussi. Dans l'esclavage, mon maître il dit « fais ci, fais ça, j'obéis ». Le péché me dit « fais ci, fais ça ». Combien de criminels disent « j'ai eu une pulsion ». Oui, d'accord, mais tout le monde a des pulsions. Mais pourquoi tu as tué cette personne ? J'ai eu une pulsion de la tuer, de la violer. Oui, mais ça, c'est pas ça, la vie. Mais ces personnes-là sont esclaves, et ça se voit hein, dans leur vie, dans leur comportement. La liberté, c'est quelque chose de merveilleux quand même, je peux vous le dire, d'être libéré. Lorsque Abraham Lincoln a proclamé l'abolition de l'esclavage aux États-Unis, il a fallu donc, il n'y avait pas de radio, pas de télévision, pas de journal télévisé, pas de Google Actualité ou je ne sais pas quoi. Il fallait faire passer la nouvelle dans tout le pays. Donc il y a des émissaires qui sont venus avec le décret du gouvernement. L'esclavage est aboli. Il passait dans les propriétés pour montrer aux esclaves. Et il y a plein d'esclaves qui ont dit non. Non, c'est pas possible. C'est un mensonge, c'est une blague. Ou non. Beaucoup n'ont pas voulu quitter l'esclavage. Ils avaient peur. Mais qu'est-ce que je vais faire, moi? Je vais où? Tu es libre. Oui, mais libre où? Et il y a des chrétiens qui sont comme ça. La liberté fait peur parfois. Oui, mais alors qu'est-ce que je vais faire de ma vie? T'inquiète pas, le Seigneur va te donner plein de choses à faire magnifiques. Il va remplir ta vie de bonté, d'amour, de grâce, de bénédiction, d'œuvres extraordinaires. La Bible dit que nous sommes une nouvelle création de Dieu pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Donc on ne va pas s'ennuyer quand on est chrétien, quand on est libre du péché. Il y a plein de choses pour remplacer le péché. Mais je pense, par exemple, dans l'alcoolisme, l'alcoolique profond, depuis le matin au réveil jusqu'au soir au coucher, il pense à l'alcool. Comment je vais me procurer de l'alcool? Combien je vais boire? Comment je vais avoir assez? Est-ce que j'aurai assez d'argent pour m'acheter tout l'alcool qu'il me faut? Et l'alcool dirige totalement sa vie. Même si, quand vous parlez avec lui ou elle, la personne a l'air d'être intéressée, d'avoir une vie normale, en réalité, dans sa tête, c'est cause toujours... Quand est-ce que je vais boire mon prochain verre? C'est terrible. Et ça, c'est un exemple extrême, un peu, l'alcool. Hein. Mais il y a d'autres péchés qui sont comme ça, nous rendent esclaves. Il y a la pornographie, il y a la drogue, toutes les drogues possibles et imaginables. Mais il peut y avoir aussi l'amour de l'argent. Il y a des gens, ils ne pensent qu'à l'argent. Comment je vais m'enrichir le plus aujourd'hui, du matin au soir? Il y en a, c'est l'égocentrisme. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes. C'est-à-dire, tout tourne autour d'eux-mêmes. C'est des trous noirs, hein, ils attirent tout. Et tout le monde doit me servir, moi. Terrible. C'est un péché. C'est pas dans une liste. Il n'y a pas une liste égocentrisme. Mais c'est un péché. Devant Dieu, en tout cas. Quand Christ vient dans notre vie, il nous libère. Il nous rachète. Il nous sort de là, de ce piège, de cette souillure. Il nous met les pieds sur le roc. On a tous des chaînes, mais Jésus, il a toutes les clés. On a des chaînes différentes, des péchés différents quand on vient à Christ. Mais lui, il a toutes les clés qui ouvrent toutes les chaînes. On peut tous être libres. Si le Fils vous affranchit, dit Jésus, vous serez réellement libres. C'est beau cette phrase. Hein? Réellement, pourquoi il dit réellement? Parce qu'on peut être faussement libre. Voilà. Mais réellement, c'est quand on est libéré du péché. Pas libéré... des Romains à l'époque hein, ou de telle ou telle influence, libérée du péché, c'est ça la pire influence, libérée face à nos mauvaises pulsions, mauvaises passions. Bien sûr, il y a toujours des tentations dans la vie chrétienne. Le chrétien est tenté comme les autres, mais il a le pouvoir de dire non, ce qu'il n'avait pas avant. Avec Christ, on peut vaincre, et non seulement ce n'est pas encore une fois une bataille péché après péché, on est là, ce péché, parce que sinon on pense qu'au péché. C'est une nouvelle vie. On n'est pas, encore une fois, dans le légalisme avec une liste. Alors maintenant que je suis chrétien de l'église biblique baptiste, il y a une liste de 703 commandements pour être un bon biblique baptiste. Eh bien non, il n'y a pas de liste. C'est une vie chrétienne. Avec Christ. Et quand on vit avec Christ, le Saint-Esprit nous sanctifie, il nous rend saints. Et il nous pousse vers des choses qui sont pures. Et il nous éloigne des choses impures. On n'a plus envie, on fuit même. Quand j'étais nouveau chrétien, j'avais l'habitude tous les vendredis, samedis, puis ça devenait après jeudi, vendredi, samedi, d'aller avec mes copains ou en boîte de nuit où on jouait aux cartes toute la nuit en fumant et en buvant du whisky. Et c'était devenu vraiment plus qu'un moment de plaisir. C'était presque obligatoire. On ne pouvait pas ne pas faire ça. Et quand j'ai trouvé le Seigneur, Le week-end suivant, ils m'ont appelé, et, tu viens, on va boire. Je dis, je n'ai pas trop envie. Ah bon, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il faut que je vous raconte quand même. Alors je suis allé les voir, et au lieu de boire et de fumer et de jouer aux cartes, je leur ai raconté mon témoignage. Ils ont dit, mais alors, c'est fini, tu bois plus, tu fumes plus. Je dis, non. D'ailleurs, j'ai continué à fumer et à boire de l'alcool pendant quelques temps avec eux. Hein. C'est plus tard que j'ai arrêté de fumer et de boire le whisky. Mais j'aurais dit, non, mais là, j'ai autre chose. Jouer aux cartes, ça va un moment, mais bon, ça va un moment, quoi. Après, tu veux autre chose dans la vie. J'ai 18 ans, j'avais 18 ans et demi, j'ai envie d'autre chose dans la vie. Et avec Jésus-Christ, j'ai un sens, je sais où je vais maintenant. Il a plein de choses pour moi, je ne sais pas quoi, mais il y a plein de choses pour moi. Et ils étaient totalement étonnés, ils n'avaient jamais entendu ça. Et ils avaient du mal à me comprendre. Mais tu es dans une secte, c'est quoi? Mais non, ce n'est pas une secte, c'est une église, on est des chrétiens. Et quand le Seigneur nous libère, il nous libère d'une vie vaine, d'une vie vide. Et il nous donne une vie pure et abondante. C'est la libération. Est-ce que nous sommes libérés avec Christ? Est-ce que nous avons saisi cette libération par le sang précieux de Christ? Est-ce que nous la voulons, cette libération? Nous voulons la vivre? Est-ce qu'on veut enlever toutes ces chaînes? Christ nous les enlève pour nous. On n'a plus qu'à marcher ensuite librement dans ses pas, à le suivre. On n'est plus obligé de marcher dans le péché, d'être un chrétien coupable et brinque-ballant. On peut être un chrétien libre par la puissance de Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Et si on tombe dans le péché, par faiblesse, par désobéissance, il faut tout de suite revenir au Seigneur. Seigneur, pardonne-moi. Et ce n'est pas qu'on revient à quelqu'un en disant « je me confesse », c'est qu'on revient à Dieu. Seigneur, je t'ai offensé par mon péché. Ce n'est pas que j'ai désobéi à la liste, c'est que j'ai offensé mon Dieu, mon Père, mon Créateur. Ça change l'optique. Seigneur, pardonne-moi parce que je t'aime et là, mon action, là, ce que j'ai fait, ce n'était pas une preuve d'amour, c'est sûr. Et pardonnez-moi mes frères et sœurs ou tel frère, telle sœur ou tel parent, tel voisin. J'ai manqué d'amour envers vous. Ce n'est pas simplement que j'ai désobéi à une loi du code civil, c'est que j'ai manqué d'amour. Et c'est là le plus grand péché, la source des péchés. Que le Seigneur nous bénisse dans cette sainte scène où nous allons nous rappeler à quel prix nous avons été rachetés et que nous saisissions cette liberté. Merci de votre attention.